Chicago.
Bon, ben écoute, on va passer aux chroniques outre-Atlantique hein, de Olivier Morel. Donc, chroniques qui sont rediffusées aussi le mercredi entre 12h30 et 13h. Et aujourd'hui, ben, Olivier Morel bon, va parler cette fois de famille, milliardaire et star de la télé, le gouvernement de Donald Trump. Bon, c'était pas encore celui de Macron. Voilà.
Ça viendra.
Dans ma chronique de la mi-octobre, c'est-à-dire vers le 17 ou 18 octobre, j'évoquais le fait qu'un think tank, comme on les appelle, c'est-à-dire un institut de production, de synthèse et de recherche programmatique fourni à des politiciens, cet institut avait produit un énorme document de 886 pages, si je me souviens bien, qui s'appelle le projet 2025, Project 2025, qui est très bien doté financièrement, qui contient 78% d'anciens membres de l'administration de Donald Trump. Eh bien, ce think tank est en fait l'un des groupes qui fournit le plus de membres à la future administration de M. Trump. Ce qu'on appelle « the administration » aux États-Unis, c'est en fait les membres de son gouvernement. Il n'y a rien moins que 17 personnes qui sont liées à Projet 2025, donc à « the Heritage Foundation », ainsi qu'à un autre institut, « America First Policy Institute », les deux ayant en commun d'avoir produit déjà une batterie énorme de textes qui sont prêts à être transformés en décrets par Donald Trump. C'était leur travail, une partie de leur travail, c'était d'être en fait des lobbies, mais aussi des forces de proposition gouvernementale pour le candidat Trump. Eh bien, pas moins de 17 personnes de l'administration Trump viennent de ces deux organismes. Il y a 17 personnes, donc, liés à Projet 2025, ainsi qu'à America First Policy Institute, en français ça se dirait l'Amérique d'abord, n'est-ce pas ? L'Institut de production de policy, c'est-à-dire de programmes politiques pour l'administration de Trump. Donc 17 personnes viennent de cet institut, 12 personnes sont des personnes qui ont tenu des événements à Mar-a-Lago, c'est-à-dire à la résidence de Donald Trump en Floride. Et 11 personnes dans sa future administration sont des contributeurs de Fox News, de la télévision, de la chaîne de télévision ultra-droite et conservatrice Fox News. Donc en fait, dans une administration qui compte 40 personnes, on a 17 personnes qui viennent de ces instituts think tank d'extrême droite, 12 qui sont liés au cercle personnel proche, voire très proche, puisqu'il y a des membres de la famille, plusieurs membres de la famille de Donald Trump, et notamment le père du gendre de Donald Trump, le père de Jared Kushner, dont on se souvient qu'il était très présent dans l'administration de Trump dans les années de la première présidence de Trump. Son père, le père de Jared Kushner, fait partie des membres de la nouvelle administration. Alors, on pourrait s'arrêter sur lui, mais il s'appelle Charles Kushner, mais je vais y revenir dans une minute. Ce qui est digne d'intérêt ici, c'est que c'est l'un des leaders de Project 2025, de Projet 2025, Russell Vought, qui va être le futur directeur du budget, le futur ministre du budget, on dirait en France, de la future administration de M. Trump. J'avais parlé de lui et de sa trajectoire d'intellectuel extrêmement conservateur qui était aussi un très proche conseiller de Trump durant la première période de Trump. Donc voilà, alors on a maintenant le squelette, en fait, en quelque sorte, de cette future administration de Trump, qui est en gros constituée de 3 ou 4 cercles. Il y a le cercle des proches, très proches, et de la famille, de Trump, de ceux qui ont été assez proches de la famille de Trump, de la famille restreinte. Mais il y a aussi le cercle des personnages qui fascinent Trump parce qu'ils apparaissent à la télévision. Je disais il y a quelques chroniques que Trump était constamment rivé à sa télévision, qu'une des caractéristiques de sa présidence, de sa première présidence, était que la télévision était constamment allumée dans toutes les pièces de la Maison-Blanche, et notamment Fox News. Eh bien, on retrouve 11 personnes de Fox News dans son cabinet. Il y a peu de femmes dans le gouvernement, dans le futur gouvernement de M. Trump. Très peu, une infime minorité. La plupart des hommes et des femmes qui composent ce gouvernement sont blancs. Mais je voulais évoquer le profil de quelques-uns. On retrouve dans l'administration Trump future le profil de Stephen Miller. Alors on se souvient peut-être que Stephen Miller est en fait le principal idéologue de M. Trump sur les sujets de l'immigration, et qu'il est notamment l'un des responsables des décrets des premiers jours de la première présidence de Trump qui sont connus sous le terme du « Muslim ban ». Ça veut dire ce décret qui avait mis en place une interdiction de territoire américain contre les personnes de confession musulmane. Alors très rapidement, ce décret avait été annulé par les juges parce que c'était évidemment un décret qui était dérogatoire par rapport aux lois sur l'immigration. Mais ce qui est troublant, c'est que précisément dans le profil de l'administration Trump actuelle, et l'un des buts de ces think tanks, c'était précisément ça, et j'en ai parlé au mois d'octobre, c'était de placer à la tête des administrations, et notamment à la tête des administrations dans lesquelles des fonctionnaires exercent des individus qui allaient demander une loyauté, non pas vis-à-vis, un respect, non pas vis-à-vis des lois et des régulations, mais une loyauté vis-à-vis de l'autorité exécutive, c'est-à-dire de l'autorité présidentielle. Alors, ceci a des ramifications très graves parce que, évidemment, Stephen Miller, Donald Trump et toute son équipe ont bien appris les leçons de la première présidence de Trump. Et un des futurs administrateurs, un des futurs ministres de Trump qui attire beaucoup d'attention depuis quelques heures, outre Pete Hegseth pour ses relations abusive vis-à-vis des femmes et son alcoolisme. Un des autres grands noms qui revient maintenant, c'est celui de Kash Patel. Alors, Kash Patel est un nom qui ne dit peut-être rien aux Français, mais il est vraiment connu aux États-Unis pour être un espèce d'agitateur dans les médias. Et en particulier, il est très présent dans ce qu'on appelle la manosphère et auprès des influenceurs. Il est très présent sur le web. Il est présent à un tel point, d'ailleurs, que Kash Patel est célébré actuellement par les partisans du complotisme de la mouvance QAnon. Alors, ça dit quelque chose sur Kash Patel, ça. Or, que va faire Kash Patel ? Bah, précisément, Kash Patel est la pointe avancée de ce que Projet 2025 prévoit de faire et de ce qui est énoncé dans Projet 2025. Une des obsessions de Trump vis-à-vis de certains échecs de sa première présidence, et en particulier de l'échec dont je parlais tout à l'heure pour la présidence Trump, qui était celui du Muslim ban, c'est-à-dire ce décret qui bannissait l'entrée sur le territoire américain des personnes de confession musulmane. C'était Stephen Miller qui avait écrit ce décret. Or, Kash Patel est la pointe avancée de cette notion de reprise en main de l'administration et de reprise en main des administrateurs et particulièrement des fonctionnaires. Or, il y a une administration qui est centrale dans tout ceci et qui est centrale aussi dans l'approche que Trump a de cette notion de loyalisme et de ce qu'il a appelé constamment durant sa campagne les fameux ennemis de l'intérieur. Or, Kash Patel était à la tête des groupes idéologiques qui défendaient cette théorie qu'il y a un deep state qui est anti-Trump, qu'il y a un deep state, un état profond, c'est-à-dire des fonctionnaires, des gens dévoués à la loi, en fait, qui ne font qu'exécuter des ordres dans le cadre de la loi, et bien que lorsque ces fonctionnaires sont déloyaux vis-à-vis des ordres d'un gouvernement, parce que les lois protègent aussi les citoyens de décisions abusives d'un gouvernement, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la séparation et l'équilibre des pouvoirs, eh bien, Kash Patel va prendre la direction du FBI. Et le Federal Bureau of Investigation, qui est, bien sûr, on le sait, responsable des investigations policières sur toutes les activités illicites ou illégales qui ont lieu à l'échelle des États-Unis. Or, l'idée de nommer Kash Patel, qui est un loyaliste, plus loyaliste que le roi, à la tête du FBI, génère énormément d'inquiétudes, puisqu'on sait que l'un des buts de Kash Patel, tout comme Donald Trump, c'est de se servir du FBI comme d'une arme contre des opposants politiques. Donc il y a énormément de commentaires sur ceci dans les médias récemment. Parmi les membres du gouvernement, du futur gouvernement de Donald Trump, ça peut-être qu'on en parle en France, mais ça mérite d'être mentionné, c'est aussi une coupe de l'Amérique dominante, ce gouvernement, la sociologie du personnel qui domine l'Amérique aujourd'hui et particulièrement du capitalisme américain. Il n'y a pas moins de 5 milliardaires à la tête de la future administration de M. Trump. Parmi eux, on note Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, donc qui a une position très très importante et qui est à la tête d'un hedge fund, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un investisseur sur les marchés financiers et qui est spécialisé dans les investissements risqués, c'est-à-dire aussi les investissements qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Donc M. Bessent, à la tête du Trésor, un milliardaire. Il y a aussi Howard Lunick, qui, un peu à la manière de Scott Bessent, est un dirigeant d'institutions financières sur Wall Street. Il y a, on sait bien ça, parce que ça c'est médiatisé, il y a Elon Musk et deux autres. Ce qui est très important à comprendre, pour comprendre la démocratie américaine, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne électorale sans l'argent, sans énormément d'argent. Je parlais la semaine dernière, et ça a été confirmé aussi dans des études qui viennent d'être publiées cette semaine, du fait que les républicains, la droite, l'extrême droite américaine, étaient très savis, comme on dit aux États-Unis, c'était très maligne et très technologiquement éclairé dans sa manière d'utiliser les médias sociaux, d'utiliser les plateformes, d'utiliser le web, et que c'est quelque chose que les démocrates avaient beaucoup moins bien fait historiquement, et en particulier dans la présidence actuelle. Il est dit dans les études publiées au cours des derniers jours que, par exemple, Kamala Harris a fait une campagne médiatiquement extrêmement traditionnelle. Elle avait beaucoup plus d'argent que Donald Trump. Elle a généré beaucoup plus de donations, et notamment des petites donations d'ailleurs, des donations populaires que Donald Trump. Et elle a dépensé cet argent de façon très traditionnelle sur des chaînes de télévision, sur des chaînes du câble. Or, qui regarde la télévision aujourd'hui ? Plus particulièrement des gens d'une génération plus âgée. Et il y a toute une portion, toute une frange de la population que Kamala Harris a complètement ratée dans ce contexte. Ce sont les gens qu'on appelle les cord cutters, c'est-à-dire les gens qui ne regardent plus la télévision traditionnelle. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Je les vois parce que je les ai dans mes classes, par exemple, les étudiants. Les étudiants ne regardent plus du tout la télévision. Ils s'informent sur les médias sociaux. Pour certains, ils lisent certains journaux qui sont fournis gratuitement sur leurs smartphones, sur leurs iPhones. Mais pour beaucoup d'entre eux maintenant, et ça c'est très intéressant, c'est un phénomène nouveau de la campagne de 2024, beaucoup des publicités et des informations auxquelles les électrices et les électeurs qui n'ont ni la télévision, ni l'accès aux journaux, aux magazines, puisqu'on ne lit plus les journaux sur le papier, mais en fait, c'est aussi l'élite qui lit les journaux quotidiens comme le New York Times ou le Washington Post. La plupart de mes étudiants et de mes étudiantes, encore une fois, ne lisent pas vraiment les journaux. Non, ils sont informés de plus en plus par les plateformes de streaming, c'est-à-dire les services qui offrent des programmes, des films, des programmes de télévision en ligne, parce que beaucoup de programmes de télévision traditionnels sont maintenant offerts en ligne. Or, c'est sur cette frange d'électrices et d'électeurs que Donald Trump a investi le plus d'argent. Et ça a marché. C'est dans cette frange en particulier qu'il y avait énormément d'Afro-Américains et de Latinos qui étaient encore non décidés. On estime dans les articles publiés récemment, donc encore une fois, que c'est environ 17% de l'électorat, ce qui est énorme à l'échelle des États-Unis, 17% de l'électorat qui a été exposé à des publicités pour la campagne présidentielle à travers leur plateforme de streaming, à travers leur consommation de programmes en ligne sur les plateformes comme Netflix, comme Amazon, comme Hulu, etc., etc. Alors ça, c'est un phénomène très intéressant parce que, évidemment, là, il y a un basculement technologique, hein, mais il y a aussi un phénomène très vicieux dans toute cette histoire, c'est que comme ce sont des plateformes de streaming, ça n'était pas encore régulé par les lois. Et donc, M. Trump et son équipe ont pu faire des publicités sans vraiment avoir de compte à rendre sur la diffusion publicitaire de contenu politique sur ces plateformes de streaming. C'est une chose extrêmement importante parce que je viens de dire que c'est décisif cette histoire, que M. Trump avait beaucoup moins d'argent que Kamala Harris, mais qu'il a dépensé cet argent sur des vecteurs technologiques qui étaient beaucoup plus puissants en ce qu'il touchait une frange de la population qui a pu faire basculer l'élection et qui était ce qu'on appelle les persuadables, c'est-à-dire ceux qui étaient qu'on pouvait convaincre encore, ceux qui étaient indécidés. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes des minorités, etc. Or, quels sont les financeurs de Trump ? Ben, c'est pas des financements populaires. Les financeurs de Trump, les principaux donateurs de Trump, ce sont précisément des gens comme Elon Musk. Elon Musk qui a dépensé à peu près, on estime que Elon Musk a dépensé 75 millions de dollars de son argent personnel pour aider la campagne de Trump. On sait, peut-être vous vous en souvenez, qu'il avait même promis le 19 octobre de donner 1 million de dollars par jour au terme d'une loterie à des électrices et à des électeurs qui promettaient qu'ils allaient voter pour Donald Trump. Par jour, jusqu'à l'élection, donc du 19 octobre jusqu'au 5 novembre, chaque jour, il y a eu un gagnant ou une gagnante de la loterie Musk qui a reçu 1 million de dollars après avoir promis de voter pour Donald Trump. Le Department of Justice, c'est-à-dire le ministère de la Justice, avait été informé et avait averti M. Musk que ceci était une potentielle rupture avec le droit électoral, évidemment, puisque, en quelque sorte, l'une des conséquences de cette stratégie était d'acheter des électeurs, d'acheter des votes, n'est-ce pas ? Chose que les juges de Philadelphie ont refusé de qualifier en activité illégale. Mais c'est très important parce que une des raisons pour lesquelles Musk est très présent dans l'équipe de Trump et est un très présent conseiller de Donald Trump, après avoir historiquement d'ailleurs été assez critique de Trump. Maintenant, il est tout sauf critique de Trump. Il est au contraire un grand fan et c'est réciproque. Trump a beaucoup d'admiration pour les milliardaires. Une des raisons pour lesquelles Trump est présent dans l'équipe gouvernement, pour lesquelles Musk est présent dans l'équipe du gouvernement de Trump, c'est qu'il a donné beaucoup d'argent. Et c'est son cas, comme c'est le cas de 8 donneurs majeurs de Donald Trump. Quand on parle de donneurs très, très influents et très importants, ce sont des gens qui ont donné des millions, voire des dizaines de millions de dollars à M. Trump. Alors parmi eux, j'ai évoqué ce cas, c'est Charles Kushner. Charles Kushner, qui est le papa de Jared Kushner, qui est un mania de l'immobilier et qui va être le futur ambassadeur des États-Unis en France. C'est M. Kouchner, qui est un mania de l'immobilier, comme beaucoup d'amis de M. Trump, et certains membres de son cabinet sont des amis à lui, de ses ministères, sont des amis à lui qui jouent au golf avec lui et qui viennent de l'univers de l'immobilier new-yorkais dont j'ai parlé dès le début de mes chroniques. Donc c'est le beau-père de Ivanka Trump, la fille de Trump. Or, M. Kouchner a fait lever les sourcils de beaucoup de gens qui savent qui il est lorsqu'il a été nommé ambassadeur parce qu'il a passé 2 ans en prison pour des raisons qui seraient une disqualification pour obtenir une fonction publique dans un univers pré-Trump. Avant Trump, ça aurait été une disqualification immédiate. Il a fait 2 ans de prison après avoir plaidé coupable pour un cas d'évasion fiscale. Monsieur Trump l'a pardonné en 2020 et voici que maintenant Charles Kouchner est ambassadeur de France. Alors, j'ai évoqué aussi il y a quelques semaines, quelques jours, le ministre de la Santé de Monsieur Trump. Puisqu'on parle des ministres de Monsieur Trump, eh bien, il y a un ministre qui a aussi attiré beaucoup d'attention. Il attire aussi beaucoup d'attention à cause de son nom. C'est Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy va être responsable de la santé pour le futur ministère de Monsieur Trump. Or, il est connu, comme beaucoup de personnes de l'entourage de Trump, pour avoir poussé des théories complotistes. Par exemple, il a promu en son temps l'idée que le virus HIV n'était pas la vraie cause du sida. Il a été un très vocal critique des vaccins et des stratégies de l'administration de santé américaine au cours de la pandémie. Parmi les membres de l'équipe de Trump qui vont s'occuper de la santé, il y a aussi Mehmet Oz, qui est ce qu'on appelle un celebrity physician, c'est-à-dire un médecin appartenant au cercle de la célébrité. Mehmet Oz est un médecin qui apparaît très souvent sur Fox News. Donc là, on a les différentes dynamiques qui influencent beaucoup Trump. Dès que ça passe à la télé, pour Trump, c'est très important. Ce sont des gens très importants. Dès qu'ils passent à la télé, ils les respectent. Quand ils sont milliardaires, ils les respectent. Quand ils sont loyaux, ils les respectent aussi. Il y a d'ailleurs dans la future administration Trump de nombreux avocats qui l'ont soutenu, notamment son avocat qui l'a soutenu dans le procès du printemps dernier pour un cas d'abus sexuel au terme duquel M. Trump a été condamné. Todd Blanchy avait défendu M. Trump à cette époque-là, au printemps. Et donc, on a ce médecin qui s'appelle Mehmet Oz qui va être responsable, et ça c'est ça nous ramène à projet 2025, qui va être responsable de l'administration de santé et de soins des personnes âgées aux États-Unis. C'est Medicare and Medicaid, c'est-à-dire l'assurance publique de santé, un peu comme la sécurité sociale en France, qui couvre les personnes âgées. Et on sait que projet 2025 a tout un chapitre sur le démantèlement de ce système de sécurité sociale des personnes âgées. Alors, Mehmet Oz, ce celebrity physician, ce médecin célèbre qui passe à la télévision, qui s'est fait notamment violemment attaquer au début de la pandémie parce qu'il a fait partie des médecins qui est apparu sur Fox News et de nombreux canaux pour défendre l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine pour combattre le virus du Covid. Je parle de la santé aujourd'hui. Alors pourquoi la santé ? Eh bien parce qu'aux premières heures du jour de mercredi 4 décembre vers 6h45, un homme qui apparaît être un jeune homme, on ne connaît pas encore son identité, s'est trouvé à New York à la sortie d'un grand hôtel de luxe non loin de Central Park à New York, en plein cœur de Manhattan, et a sorti un revolver silencieux et a abattu de plusieurs balles M. Brian Thompson, qui n'est ni plus ni moins que l'un des plus puissants patrons des États-Unis aujourd'hui. Et quelle est l'entreprise dont M. Brian Thompson était le PDG ? Eh bien, il s'agit de United Healthcare. United Healthcare, ça ne dit peut-être rien aux auditrices et aux auditeurs français, mais c'est une compagnie dont la valorisation s'élève à 560 milliards de dollars. Pour prendre un point de repère, le budget annuel de la France, c'est aux alentours de 1200-1300 milliards. Voilà une compagnie qui est valorisé à peu près la moitié du budget national de la France, 560 milliards. Or, que fait cette compagnie ? Eh bien, c'est une compagnie d'assurance, et c'est une compagnie d'assurance santé privée. Alors, les premières douilles des balles qui ont été retrouvées sur le site du lieu où M. Brian Thompson, le PDG de cette assurance santé privée américaine, les premières douilles des balles qui ont été retrouvées portent deux mots qui ont été, semble-t-il, gravés sur les douilles. Un mot dit « deny » et un autre mot dit « delay ».« Deny », ça veut dire « on refuse », »,« on nie », »,« on dénie », si on veut. « Delay », ça veut dire « on retarde ». Ce sont deux mots-clés que tous les Américains et toutes les Américaines ont reconnus. Quand je dis « tout » et « toutes », c'est-à-dire toutes les personnes adultes en âge de voter et qui ont des problèmes de santé un jour dans leur vie, c'est-à-dire à peu près tout le monde un jour ou l'autre. Les parents, les grands-parents, etc. On sait ce que ça veut dire « deny and delay ». « Deny and delay », ce sont deux mots-clés qui sont utilisés, qui sont des stratégies, des assurances privées de santé aux États-Unis pour trouver des arguties, souvent, pour ne pas couvrir des dépenses de santé ou pour mal couvrir des dépenses de santé. Alors, beaucoup de journaux, il y a des films sur ceci, il y a des conversations privées sur cela en permanence, évoquent cette notion des assurances santé qui exercent des abus au niveau des États-Unis. Et ces abus sont relativement bien documentés. Alors, on ne sait pas du tout quelles sont les motivations de l'homme apparemment jeune et qui a tué Brian Thompson aux premières heures du jour. Mais ce qu'on sait, et ça nous ramène à l'écosystème des médias sociaux et de l'expression populaire de la souffrance, voire de la haine qui sévit aux États-Unis dans la période de Trump, ce qu'on sait, c'est que dans les minutes qui ont suivi l'assassinat de ce monsieur, des franges très importantes de la population américaine se sont réjouies. Se sont réjouies de la mort de ce monsieur. C'est assez rare, et voire très rare même, dans les démocraties en tout cas, que des manifestations publiques de réjouissance sur la mort, en fait cet homme était aussi un père de famille, il avait une cinquantaine d'années, c'était un PDG, on peut dire ce qu'on veut, ça reste aussi un être humain qui a été exécuté froidement dans la rue. Et ce qui est phénoménal dans cette histoire, et c'est ça que je voudrais souligner, et c'est avec ça que je voudrais terminer, c'est que de nombreuses blagues acrimonieuses, extrêmement amères et acides, sont sorties au sujet de Brian Thompson, de gens qui se réjouissaient de sa mort et qui faisaient des blagues en utilisant les termes que les assurances santé privées utilisent pour ne pas couvrir les frais médicaux des Américains. « Thoughts and deductibles to the family ». Voilà le type de phrase qui était publiée sur les réseaux sociaux après cet assassinat. Thoughts and deductibles to the family, ça veut dire bien des pensées sincères et aussi la franchise d'assurance adressée à la famille de ce monsieur. Évidemment, c'est une injure proférée à un homme qui vient d'être assassiné et c'est profondément choquant. Mais en même temps, le fait qu'il y ait cette sensation de vengeance dans la population américaine, dans une certaine population américaine présente sur les réseaux sociaux, à l'encontre d'un millionnaire à la tête d'une entreprise de santé, d'une entreprise de couverture privée de santé, est un des signaux que l'époque nous envoie de la haine et de la souffrance qui règne dans l'Amérique de Trump. California, my sweet home, Chicago.
journey to my sweet home, Chicago. Now one and one is two, ten, two is four. I'm heavy loaded, baby. I'm booked, I gotta go. Fine, baby, I need all you want to go. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I turn to his four, burn to his six. You gonna keep on mucking around your friend, boy, he gonna get you. Been a song and a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm 6 and 2 is 8, 8 and 2 is 10. Friend, watch it trick you one time. She's sure gonna do it again, but I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 30 miles by way. Somebody will tell me that you need my help someday, crying. California, to my sweet home, Chicago.